peu en avance, c'est très rare qu'on commence 2 minutes avant. Après, ça dépend de l'horloge. Merci à vous de vous être rendu disponible pour ce conseil municipal. Donc, on a une procuration de Pierre Achard qui ne peut pas être là ce soir. Et ça, on le savait, puisque avant, il était sur Sainte-Prié le lundi. Donc, il était là à tous les conseils, toutes les réunions. Et là, maintenant, ça a changé. Donc, il ne peut pas être là. Et donc, il m'a fait un pouvoir à mon nom. Et puis, on va commencer donc le débat donc, d'orientation budgétaire 2024 que va vous présenter Michel Bisaccia. Je demande à Mireille si elle est toujours d'accord pour être secrétaire de la séance. Elle est toujours d'accord. Et donc, on va laisser Michel nous présenter le débat.
Oui, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Oui, donc comme toutes les années, à la même période, on retrouve donc notre débat d'orientation budgétaire. Donc je vous rappelle que c'est une étape essentielle, qu'on est obligé de le faire pour vous informer, vous les élus, de la situation économique et financière de notre commune et essayer de déjà d'avoir une première vue sur la constitution du vote du budget primitif. Alors c'est vrai que cette année, les projections sur le budget primitif 2024 seront moins peut-être détaillées que les autres années. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a encore des incertitudes sur le coût final de Jules Ferry, sur certaines subventions qu'on a demandées, mais pour lesquelles on n'a encore pas de visibilité. Et tout ça ne nous permet pas de finaliser notre budget. Et donc, on le verra ça lors du vote du budget et lors de la commission finance pour ceux qui en font partie, où effectivement, à ce moment-là, le budget sera finalisé et on pourra expliquer plus en détail. Donc le DOB, c'est une étape obligatoire, puisque si on ne fait pas ce débat d'orientation budgétaire, toutes les délibérations qu'on prendra ensuite sur le budget seront nulles et non avenues et caduques. Voilà. Alors, il y a encore un autre slide derrière sur la... donc vous voyez, on doit vous présenter les orientations budgétaires sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes. Donc, bien entendu, je l'évoque, mais sans chiffres vraiment précis et plutôt sur une évolution et sur une perspective que sur des chiffres précis. Normalement, donc, alors par contre, tout ce qui est fiscalité, tout ça, effectivement, on peut déjà commencer à en parler, poser des questions, voir quelle optique on compte prendre en matière de fiscalité. Et puis, bien entendu, vous présenter les projets qui seront présentés pour l'année 2024. Il n'y a pas vraiment de surprise puisque notre plus gros projet, c'est l'école Jules Ferry et qu'on est normalement en 2024 sur l'année de fin du projet puisque normalement l'école doit rouvrir en septembre 2024 avec le regroupement avec l'école de Jean Massé. On doit vous donner aussi des choses sur l'état de la dette et sur les engagements pluriannuels. Ça, on le verra aussi sur le DOB. Alors, le contexte général 2024, il n'est pas vraiment plus florissant et plus joyeux que celui de 2023, dans un contexte général d'incertitude. Donc l'année dernière, on avait les pandémies et la guerre en Ukraine, et là cette année, on a la crise au Moyen-Orient et sur l'ensemble de la politique extérieure mondiale, parce que malheureusement, ce n'est pas réduit qu'au Moyen-Orient et la situation, que ce soit en Ukraine, ailleurs, n'est pas très réjouissante. Alors, bien entendu, on a toujours l'inflation. Elle ralentit un petit peu. Mais là, c'est pareil. C'est aux prévisions de dépenses, aux prévisions de baisse de l'inflation. C'était sur une situation politique un peu stable. Tout ce qui est instable peut créer encore un climat inflationniste qui, bien entendu, viendra encore impacter nos finances. Donc, il y a maintenant la perte de la taxe d'habitation. Ça y est, c'est acté. On a une dotation de compensation de l'État au centime près, mais de l'État au centime près en 2017. Et malheureusement, on ne sait pas si cette dotation sera figée ou sera indexée sur le nombre d'habitants et sur éventuellement une certaine dynamique. Mais en tout cas, ça nous enlève encore une partie de notre autonomie financière parce qu'avant, c'est nous qui décidions des augmentations de la taxe d'habitation. Ça n'est plus le cas. Donc, ça nous enlève encore un moyen pour nous de d'augmenter un peu nos recettes. On a toujours ces réformes qui sont décidées par le gouvernement. On a encore eu une augmentation de 5 points, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, 5 points de taux d'indice de tous nos agents, ce qui, vous imaginez, sur 147 agences, enfin, ou 100, je ne sais plus exactement, à peu près, ça représente quand même une somme
importante. Chargé, c'est 50 000 euros.
Voilà, chargé, c'est 50 000 euros. Donc, vous voyez, c'est quand même pas neutre. Et on verra tout à l'heure les résultats du personnel 2023. On verra déjà qu'il y a un gros impact déjà en 2023. Et alors, bon, j'ai mis en dépit de ce contexte, nous allons finaliser le projet de l'école Jules Ferry. Et envisager bien entendu d'autres travaux, hein, parce que une commune doit être dynamique. Mais ça sera en fonction du montant total des travaux de Jules Ferry, en fonction des subventions qu'on aura, de ce qu'on aura comme reste à payer. Et puis, évidemment, il y a aussi tout ce qui est l'investissement habituel de fonctionnement d'une commune, hein, ne serait-ce que pour les services techniques, pour faire fonctionner, pour il y a d'autres bâtiments qu'il faut bien entendu rénover et essayer de maintenir dans un bon cadre de d'utilisation. Voilà. Alors sur la zone euro, on va passer très vite, hein, c'est la croissance économique qui est faible, hein, bien entendu. Il pense que sur 2023 la croissance devrait s'établir à 0,5 parce que quand j'ai établi, on n'avait encore pas les chiffres sur la totalité de l'année et ils espèrent 1% d'augmentation de la croissance économique, mais ça c'est toujours des suppositions et rien n'est certain en fonction du contexte mondial. Le cycle de désinflation, hein, qui vous voyez en 2022 quand même 8,4% et 5,5% en 2023, ça fait quand même un taux inflationniste qui est quand même très important. Et puis bien entendu, il y a les contraintes financières sur les taux, hein, parce que pendant très longtemps, les taux de prêts sont restés très bas et ça permettait effectivement aussi bien aux particuliers qu'aux collectivités, qu'aux entreprises de pouvoir emprunter à des taux intéressants. Ça l'est beaucoup moins, donc ça va ralentir forcément la situation économique, hein. Et puis surtout, au-delà du taux, dans tous les médias, on se focalise beaucoup sur la fébrilité des banques pour prêter à des jeunes couples ou à des gens qui veulent investir dans l'immobilier. Et tout ça, bien entendu, font que ça ne va pas réamorcer la pompe économique, hein. Donc on espère, mais c'est pas forcément très optimiste. Donc le ralentissement de l'inflation devrait se poursuivre, hein. Donc on a aussi bien entendu la forte accélération du prix de l'énergie. Alors en 2022, ça avait été un petit peu 2022 début 2023 un peu gommé par le bouclier tarifaire, mais bien entendu, vous le savez, ce bouclier tarifaire n'existe plus et ça risque bien entendu de continuer à augmenter. Donc la croissance du produit intérieur brut a été très limitée et restée en dessous du seuil de 1%, hein, ce qui est vraiment pas très réjouissant. Et alors qu'on avait encore l'effet rebond de l'après Covid où les gens avaient quand même réinvesti un peu, avaient repris un peu confiance en l'avenir et avaient essayé de les entreprises avaient espéré sur une bonne reprise économique. Bon, l'évolution du marché du travail il est plutôt stable, mais on pense quand même que le taux de chômage risque de remonter. Et bien entendu, ce qui est plus inquiétant, c'est le déficit du budget de l'État, puisqu'on était à moins 4,9% en 2023 et on pense à moins 4,4%. Mais bon, on sait que le pays est très endetté avec tout ce qui a été payé au moment des crises sanitaires et énergétiques. Mais malheureusement, il va falloir aussi, je pense, que l'État fasse des restrictions sur ses budgets pour arriver à un petit peu à désendetter le pays, ce qui ne va pas être très très simple. Voilà. Alors, sur Saint-Étienne Métropole, le slide, si vous prenez celui de l'année dernière, c'était à peu près le même. J'ai repris leur débat d'orientation budgétaire. Ils veulent effectivement continuer leurs investissements, hein, pour essayer d'offrir la meilleure qualité de vie aux habitants, tout en promouvant l'attractivité du territoire et son développement harmonieux. Bon, c'est joli, c'est une belle phrase, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Enfin, bon. Alors, par contre, ce qui est intéressant pour nous, bien entendu, c'est de toujours le pacte financier et fiscal qui avait été adopté en septembre 2021, qui essaye de maintenir une solidarité financière entre toutes les communes membres, et ça c'est important, parce qu'effectivement les dotations restent stables, on le verra tout à l'heure dans les slides, et c'est quand même important. Et puis, ce qui est important pour nous, c'est le plan de relance métropolitain, avec lequel on finance une partie, une grande partie, la moitié de ce qui nous restera à payer sur Jules Ferry. Et je vous expliquerai tout à l'heure qu'on essaye peut-être de raccrocher le troisième dossier sur des travaux d'aménagement de la Bargette. Donc, SEM, bien entendu, cette été de métropole mobilise tous les financements extérieurs, la gestion rigoureuse, maîtrise des dépenses de fonctionnement. Eh ben, les métropoles et comme nous, hein, à partir du moment où vous n'avez pas des finances des perspectives très très réjouissantes au niveau des recettes, eh ben, vous n'avez qu'un moyen d'essayer de maintenir un certain équilibre, c'est de regarder les dépenses et d'essayer de les contraindre. Donc, elle va gérer l'évolution de ses dépenses de fonctionnement et elle va essayer d'essayer d'avoir une capacité d'épargne. Alors, c'est vrai que pour l'instant, cette été métropole a toujours une situation financière relativement saine qui leur permet de continuer à vouloir faire des investissements, même si il y a des moments, il y a certains investissements qui sont un peu remis en cause, mais qui avaient été déjà décidés et qui c'est des coups partis. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué de revenir en arrière. Donc, voilà pour le contexte général. Alors, pour nous, sur 2023, on a effectivement... tu peux passer à la slide d'après, Frédéric, s'il te plaît. Voilà. On a une bonne augmentation de nos recettes en 2023, puisqu'on est passé de 8 949 000 à 9 504 000, ce qui est quand même très important, puisque ça fait une augmentation de 6-19%. Alors, on voit que c'est un petit peu une augmentation générale, mais la plus grosse partie, c'est quand même les ressources fiscales. Vous voyez, on est passé de 7 188 000 à 7 634 000, ce qui fait quand même plus de 500, pratiquement 500 000 euros d'écart, ce qui est quand même important. Deux raisons à cela, une augmentation en 2023 très importante des bases. Nous, la commune, on n'a pas touché à notre taux en 2023, mais les bases ont augmenté de plus de 7%, je crois.
6,9.
Oui, voilà, 6,9, ce qui fait effectivement une augmentation importante. Et puis, on a peut-être pour la première année la prise en compte de nos nouveaux bâtiments, puisque les taxes foncières sont souvent, exonérées pendant 2 ans sur les bâtiments neufs. Il y a des bâtiments qui viennent d'arriver. Et des bâtiments où maintenant les gens payent leurs taxes foncières. Donc ça, c'est intéressant parce qu'après, c'est un effet cumulatif, en fait, si vous voulez. Parce que sur cette somme-là, va s'imposer cette année la nouvelle hausse des bases, qui pour l'instant apparaîtrait aux alentours de 3%. Donc ça sera moins important que l'année dernière, mais ça sera quand même 3% de plus.
Je crois que c'est 3,9.
Ou 3,9. J'ai pas le chiffre exact. Oui, oui. Donc voilà. Donc après, c'est un effet cumulatif puisque ces bases-là, elles vont s'appliquer sur les nouvelles assiettes de nos contribuables. On a aussi les produits réels, c'est ce qu'on appelle la DGF et haute dotation. On a touché 10 000 euros de plus en dotation de solidarité rurale. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, tant mieux, c'est toujours une augmentation. Et sur les autres produits réels, vous voyez, alors tout ce qu'on appelle les autres produits réels, c'est tous les services payants pour la population, hein, la cantine, le pôle enfant jeunesse, l'école de musique, enfin tout ce qui nous rapporte de l'argent. Et c'est la première année pleine où on n'a vraiment pas eu de soucis d'arrêt d'activité. Donc effectivement, comme les activités ont repris, la recette a repris aussi. Voilà, donc ça c'est plutôt positif. On voit que, vous voyez, alors ça, ce slide-là, il change pas, hein, puisque la DGF, on l'a pas. On voit que la dotation de solidarité rurale est passée de 70 000 à 80 000, c'est ce que je vous disais, ça a augmenté. Et les compensations fiscales, vous savez, c'est ce que l'État nous verse pour compenser ce que les gens qui sont exonérés de taxes foncières ou taxes d'habitation pour des causes de handicap ou d'âge, c'est l'État qui nous compense. Et puis comme les contributions ont augmenté, les dotations ont augmenté aussi, puisqu'il y a certainement plus de gens qui sont rentrés dans ces compensations. Donc voilà, donc les concours financiers. Sur Saint-Étienne Métropole, alors là il manque une légende. En fait, le vert foncé, c'est la dotation de compensation. Ça y est, j'ai perdu. Il y a l'attribution de. Je vais noter là. La dotation de solidarité communautaire, voilà, que j'avais perdu. Mais vous voyez, alors celle-ci, elle a un petit peu diminué. Je sais pas pourquoi, parce certainement qu'on est passé de 299 à 199. Il y a certainement des transferts qui se sont faits et des choses qui nous ont été enlevées. Bon, ça c'est pas d'une année sur l'autre, c'est pas très significatif. Voilà. Donc les recettes, elles ont augmenté d'un peu plus de 6%. Comme je vous l'avais dit, la reprise des services proposés à la population nous a permis de meilleures recettes. Les recettes fiscales, elles ont progressé de 6,21%, donc ce qui est quand même certainement pas mal. Et je reviens sur la réforme de la taxe d'habitation qui a été compensée à l'euro près en 2023. Après, quid des autres années? Ça, pour l'instant, personne ne le sait. Et bien entendu, comme toujours, la disparition quasi complète des dotations d'État qui nous oblige à chercher de nouvelles recettes. Voilà. Donc sur le fonctionnement, c'est plutôt positif, mais on va contrebalancer un peu les bonnes nouvelles en disant que si nos recettes ont augmenté, les charges aussi, malheureusement. Et on le voit, puisqu'on est passé de 7 980 000 de dépenses en 2022 à 8 321 000 en 2023. Donc vous voyez, on a des recettes qui ont augmenté de 6%, mais des charges qui ont augmenté de 4,28%. Donc le delta est moins intéressant que si on avait pu maintenir. Alors pourquoi? Eh ben parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, le problème des charges de personnel, on est passé de 5 345 000 à 5 500 000. Les décisions prises par l'État, le GVT, le glissement vieillesse technicité qui fait que notre personnel prend des points d'indice supplémentaires, prend des grades, des échelons supplémentaires et nous coûte toutes les années plus cher. Donc ça, c'est on le sait, hein, c'est quelque chose de mécanique. Ce qui est plutôt, on a aussi augmenté les subventions et participations. Alors les subventions, c'est pas vraiment les subventions aux associations qui nous coûtent cher, mais on a pas mal d'organismes de regroupement comme le SDIS, comme pas mal de le Ciel, enfin toutes ces choses-là qui petit à petit augmentent d'année en année et ça finit. Vous voyez, on est passé de 509 000 à 662 000 quand même. Donc c'est pas neutre quand même, alors que c'est pas nous les subventions qu'on donne aux associations, c'est plutôt tous les organismes de regroupement auxquels on participe qui augmentent de plus en plus leurs charges. Et les charges financières, qui sont un peu stables, hein, puisque effectivement on n'a pas trop emprunté ces dernières années et qu'on a quelques emprunts qui vieillissent. Donc on a, c'est passé de 103 à 118, mais c'est relativement stable. Et les autres charges réelles, donc tout ce qui est les charges de fonctionnement, comme l'électricité, le chauffage, le fuel, enfin tout ce qu'on met et tout ce dont on a besoin pour faire fonctionner nos services. Là, on est passé de 2023 à 2041. Mais là, on voit l'impact des augmentations des énergies. Et puis, on voit aussi l'impact de l'inflation en général. Hein, sur les tarifs de la cantine, on a pris 6%, hein, si je ne dis pas de sottises. Sur les repas de la crèche, c'est pareil. Enfin, de toute façon, ce que vous constatez, vous, au niveau familial, sur votre panier quotidien ou hebdomadaire, on le constate exactement de la même manière à la mairie. Hein. On n'a pas de prix particulier, bien au contraire, je pense. Hein. Donc là, effectivement, on est quand même monté à un niveau qui est important. C'est pour ça qu'il faut toujours, enfin, on a refait une perspective pour nos services. Hein. On leur a demandé ce dont ils avaient besoin, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, mais en leur tenant toujours le même discours qu'on n'a pas la capacité de vouloir et de pouvoir accéder à tous leurs désirs et à tout ce dont ils auraient besoin, parce que malheureusement, il y a un moment où il va falloir continuer à contraindre ces charges. Donc voilà, vous avez un graphique, hein, qui vous montre un peu où est-ce qu'on en était. Alors j'ai enlevé 2018, j'aurais peut-être pas dû, parce que 2018 était à peu près à la même. 2018 avait été une année, on était monté à 8 315 000, je crois aussi. Donc vous voyez, on est revenu à des taux identiques, mais pas pour les mêmes raisons, vraiment pour des raisons d'inflation, de charges qui sont de plus en plus importantes. Donc on a, pardon, excuse-moi, Frédéric, si tu peux revenir. Vous voyez, on a la courbe de tendance qui, bien entendu, a tendance à s'envoler. Il ne faut pas se baser sur 2020. Hein. 2020, c'est l'année du Covid où, effectivement, on a peu dépensé. Voilà. Alors, elles ont augmenté donc de 4,28%. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, les charges de personnel, les coûts de l'énergie, l'inflation générale. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que comme nos recettes ont quand même augmenté, on a un excédent cumulé. Alors, je vous rappelle que l'excédent cumulé, c'est ce qu'on a économiser en 2023, c'est-à-dire la différence entre nos dépenses et nos recettes, qui est ça notre résultat de l'année, auquel est venu s'ajouter tous les résultats qu'on avait sur les années dernières. L'année dernière, on était à 2,3 millions. Donc cette année, effectivement, on a un excédent cumulé qui représente 3 118 223 euros. Alors, c'est pas mal parce qu'il a quand même augmenté de 33%, mais encore une fois, alors on va me dire que je suis jamais contente et que je suis jamais satisfaite du chiffre, mais c'est la base d'un financier, ils peuvent jamais être contents. Il faut quand même faire attention. Bien entendu, on est content qu'on ait réussi à passer les 3 millions, mais vu les charges et vu ce qui nous reste à payer en investissement sur tous nos projets, je pense qu'on en aura bien besoin et ça nous permettra pas certainement de faire tout ce qu'on aurait voulu faire quand même. Mais soyons quand même positifs, 3 118 000, c'est quand même
par
un
rapport
bon résultat.
À cet excédent, je vous rappelle que c'est un excédent cumulé de fonctionnement. Il doit servir en priorité à rembourser l'emprunt. Chaque année, c'est 850 000 euros que nous remboursons. D'accord ? Donc il faut prévoir que s'il ne se passait rien, cette capacité, elle servirait à honorer les annuités d'emprunt. Le deuxième élément, c'est qu'une partie de cet excédent va nous servir d'autofinancer, on appelle ça notre capacité d'autofinancement, nos investissements. Si on ne l'avait pas, il faudrait qu'on emprunte tout.
Bien sûr.
Donc voilà, c'est important, c'est un excédent de fonctionnement. Dans une entreprise, c'est une réserve. Hein, c'est, voilà. Mais dans une entreprise, on mélange aussi bien les investissements que le fonctionnement. Là, c'est issu exclusivement du fonctionnement. Et on n'a pas le droit d'avoir un compte de fonctionnement en déficit. Au mieux, il doit s'équilibrer. Donc là, on dégage un excédent, il est cumulé. Mais chaque année, on prélève aussi une partie de l'excédent de l'année précédente pour alimenter notre fonctionnement. Donc, ce n'est pas de l'argent qu'on a sous le coude et qu'on va se dire qu'est-ce qu'on peut en faire. Ouais. Au contraire, on en a impérativement besoin. Donc, il évolue positivement et heureusement au prix, d'une part, d'économies substantielles réalisées en fonctionnement, et c'est de plus en plus dur, au prix d'augmentation de nos recettes. Et là aussi, comme l'a dit Michel, il y a les bases fiscales. D'ailleurs, on en reparlera lors d'un prochain conseil. La seule maîtrise qu'on a aujourd'hui, c'est la taxe foncière. On est à un taux global, puisqu'on a récupéré le taux départemental, de 38,50%. Si on augmente d'un point, on passe à 39,50, calculé, hein, moi je l'ai fait sur ma taxe foncière, on augmente d'un point, on engrange 123 000 euros de plus de recettes. Il faudra qu'on s'interroge pour pérenniser nos recettes, parce que dans nos recettes, il y a effectivement les recettes fiscales, il y a les recettes des droits de mutation, et là c'est très aléatoire. Et c'est pour ça qu'on a souvent des bonnes surprises, parce que notre responsable comptable, elle a tendance un petit peu à les minimiser quand on fait le budget, et généralement, on en a un peu plus. Mais ça dépend aussi des transactions qui existent au niveau des transmissions de patrimoine. Et je peux vous garantir, puisqu'on les voit passer régulièrement, qu'en 2023, ça a bien diminué en nombre et en nature des patrimoines. Avant, on voyait passer des cessions immobilières à 500 ou 600 000 euros. Maintenant, on est plutôt sur des transmissions entre 280 et 350 sur la commune.
Voilà. Donc, effectivement, la capacité d'autofinancement, comme le disait Christian, qui est quand même améliorée et qui, bon, nous permet quand même un petit peu d'avoir un peu de visibilité sur nos deux projets en cours. Mais bien entendu, c'est pas, un blanc-seing pour dépenser n'importe quand et n'importe comment, parce que ça ne sera pas suffisant. Voilà. Alors, on voit l'excédent des... Vous voyez, l'année dernière, on était à 2 337 000. Donc, cette année, on est à 3 118 000, sachant qu'en 2015, on n'était qu'à 1 336 000. On est même descendu en 2018 à 1 200 000. Ce qui, là, était vraiment très juste, puisque ça nous donnait même pas 2 années de remboursement de capital d'emprunt. Ce qui était quand même un petit peu inquiétant. Surtout qu'à l'époque, on empruntait quand même pas mal aussi pour arriver à boucler nos budgets. Voilà. Alors, la capacité d'autofinancement net, je vous rappelle, c'est la différence. En fait, notre excédent brut, hein, les 3 millions, comme l'a dit Monsieur le maire, nous on est obligé avec cette somme-là de payer le capital de l'emprunt, même si c'est de l'investissement. En fait, l'excédent de fonctionnement, on paye le capital de l'investissement. Donc ça, c'est bien. Donc si vous voulez des 3 130 000, on a enlevé les... C'est pas tout à fait 850 000 cette année, je crois que... Oui. Voilà, 780 000 en capital. Donc effectivement, on se retrouve à 2 millions 3 à peu près de capacité d'autofinancement net. C'est-à-dire, c'est vraiment ça, c'est vraiment nos économies. C'est vraiment cette somme-là dont on peut disposer. Alors, soit en conservant une partie, bien entendu, c'est ce qu'il faut faire parce qu'on ne sait jamais de quoi les autres années seront faites, soit effectivement en prenant une partie pour pouvoir la mettre sur les investissements et pour pouvoir baisser le recours à l'emprunt et baisser notre endettement. Voilà. Alors, en investissement, bien entendu, 2024, ça sera comme 2023, une année un peu exceptionnelle, hein, puisqu'on n'a jamais fait, depuis très longtemps, un investissement de cette hauteur sur Saint-Prié. Donc, l'encours de la dette, elle a baissé de 5,10%. On a 5 119 000, où on était, il y a quelques années, à plus de 8 millions. On a quand même, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait même une année où on avait arrêté tous les investissements en septembre parce que les banques ne nous suivaient plus. C'est plus le cas maintenant, comme on a retrouvé quand même une certaine santé financière là-dessus. On n'a pas de soucis, mais on ne souhaite pas réendetter la commune de façon trop importante. Hein. La commune, c'est normal qu'elle s'endette. Une commune peut pas payer, c'est pas un ménage, elle est pas obligée de payer, elle pourrait pas de toute façon payer net certains travaux. Mais il faut pas que le taux d'endettement, et c'est surtout les années d'endettement, on verra sur le dernier slide, ça c'est important, c'est le nombre d'années qu'on a en capacité de désendettement. C'est-à-dire que si on mettait tout notre argent à rembourser tout notre capital, en combien d'années on arriverait à assainir notre dette? Et ça, pendant quelques temps, on a été très en dessous du seuil d'alerte, et maintenant on est plutôt très au-dessus. Donc c'est plutôt bien. Parce que ça nous laisse quand même une certaine latitude si vraiment on a des travaux ou des choses comme ça pour lesquelles il faut emprunter un peu plus, ça pose pas de problème au point de vue de notre santé financière. Voilà. Donc en 2023, on a dépensé un peu plus de 2 millions d'euros sur les premiers travaux de l'école Jules Ferry. Il y en a encore largement autant à payer. Si c'est pas plus, voilà. Donc les derniers arbitrages vont se faire cette semaine. Jacques a un rendez-vous avec les archis pour refaire une dernière fois un dernier point et pour être sûr d'arriver à une somme qui soit importante. Mais le problème, c'est que là-dessus, on n'a toujours pas de réponse sur nos demandes de fonds de subvention. Que ce soit la région, l'État, voilà.
Par rapport à ça, en ce qui concerne la région, les contacts que j'ai eus m'ont confirmé que le dossier était tout à fait valide. Il est en cours d'arbitrage politique, c'est-à-dire au niveau du président de la région, dire combien on donne à Saint-Prié-en-Jarez. Pour l'État, je vous rappelle qu'on était éligible à la DSIL, à la dotation de solidarité, à l'investissement local. Pour les communes urbaines, on n'a rien eu, au motif que notre dossier était parfait mais qu'il n'y avait plus de sous. On a rencontré le sous-préfet, on lui a présenté le projet Jules Ferry. Il a trouvé que c'était un très beau projet et qu'on pourrait être éligible à la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux. Alors comment on passe de l'un à l'autre? Simplement parce que le préfet, en arrivant, a dit la DSIL, c'est plus pour les communes, mais c'est pour les intercommunalités. Donc on passe sur la DETR, où normalement, à laquelle on n'est pas éligible, puisqu'on n'est pas un territoire rural. La première contrainte dans la DETR, c'est que le projet est plafonné à 1,8 million. Dans la DSIL, il n'y a pas de plafond. Donc on mettait 5 millions pour Jules Ferry, il nous donnait une subvention sur 5 millions. Là, ça sera plafonné à 1,8 million. Ensuite, on est dans une logique aujourd'hui de recommencer, parce qu'ils sont gentils, hein. Il y a quand même un arrêté préfectoral qui dit la commune était parfaite, elle aurait dû avoir, mais elle n'a pas eu. Le préfet, il l'écrit dans son arrêté. Et il nous rend de ce fait éligible à la DETR. Merci, monsieur le préfet. Et en fait, on s'aperçoit qu'il faut refaire, et Frédéric s'est pris la tête à plusieurs reprises, des demandes de subventions avec un formalisme, des documents, etc. Sachez quand même que, et puis on a fait aussi les demandes pour bénéficier du fonds vert, il faut fournir dans le cadre de la DETR un certificat comme quoi on va faire des économies d'énergie. On a des certificats, ils sont valables. Mais par contre, quand on ouvre le dossier du fonds vert, instruit par les mêmes personnes à la préfecture, ils nous disent ces attestations ne sont pas valables et il faut en faire d'autres pour prouver que vous serez bien au-dessus de 40%. On est à 75%. Le gars, il n'a pas compris que 75% c'est supérieur à 40%, mais ce n'est pas grave. Donc il a fallu refaire des attestations comme quoi, dans le cadre du développement durable, on allait faire des économies pour être éligible au fonds vert. Enfin, je veux dire, des situations qui sont ubuesques, mais bon, on attend quelque chose de ce côté-là. Donc ça, c'est sur les investissements et donc sur le financement des partenaires potentiels. Ensuite, ce qu'on attend de Jacques, mais on ne l'aura pas forcément demain, Michel, c'est d'avoir un point complet sur les derniers ajustements, des factures, des coûts, des travaux supplémentaires, tout ce qu'on veut, pour Jules Ferry, pour dire voilà, on va passer de alors on va le dire, on va le faire en TTC, hein, 5 100 000 à quelque chose. Sauf qu'on est bloqué aujourd'hui, Béatrice Bayard dit, je ne peux pas faire mon budget d'investissement tant que je ne sais pas quels vont être les surcoûts de Jules Ferry. Actuellement, si on prend toutes les demandes valides en investissement, on est à plus de 7 300 000. Et elle dit, je ne sais pas comment on va les financer. Ça veut dire que si on met 100...
Pas que sur Jules Ferry, hein, surtout, pas que sur Jules Ferry.
Non,
c'est
sur
pas...
les investissements, pardon. Elle dit simplement, si on doit mettre 150 ou 200 000 euros de plus sur Jules Ferry, ben, il va falloir les retirer ailleurs. Voilà. Donc c'est cette problématique à laquelle on est confronté, ce qui fait qu'aujourd'hui, y compris dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, on ne peut pas vous présenter les premières tendances chiffrées en termes de budget de fonctionnement ou de budget d'investissement, parce qu'on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, il nous manque encore cet élément qui devient déterminant pour faire les budgets.
Voilà. Et pour revenir sur Jules Ferry, bien entendu, on ne serait jamais lancé dans un tel investissement si on n'avait pas eu le plan de relance de Saint-Étienne Métropole, qui, je vous rappelle, prendra en charge la moitié de ce qui nous reste à payer une fois les subventions déduites. Voilà. Donc, on revient sur ce qu'on disait, hein, ça sera la plus lourde sur le plan financier et budgétaire en ce qui concerne nos investissements, parce que c'est là où on va débourser le plus, hein, puisque sur deux exercices, on va payer le plus gros investissement. À partir de 2025, on va déjà voir revenir, parce que vous savez, quand on fait des gros investissements comme ça, on a ce qu'on appelle le fonds de compensation de TVA. C'est-à-dire que deux ans après, on retouche 19,6% de ce qu'on a payé en retour de TVA, puisqu'on a fait... Ah non, c'est pas 20, c'est 19,6. Eh oui, à chaque fois, on perd un peu. Mais normalement, c'est même pas... C'est même 18,6, je sais même pas si... Je crois que c'est 18,6, c'est même pas 20%. Donc voilà, mais sur une somme, sur les deux sommes en 25 et en 26, sur ce qu'on aura payé en 23 et en 24, on aura quand même un bon retour de fonds de compensation de TVA. Alors, on va aménager le centre, enfin, on va commencer l'aménagement du centre-bourg avec, on l'espère, la démolition des bâtiments et la finalisation de projets immobiliers. Ça avance doucement, mais ça avance. Donc la rénovation du groupe scolaire qui va se terminer, on croise les doigts, mais normalement pour l'instant on n'a pas de souci particulier. L'ouverture est toujours prévue en septembre 2024. Par contre, effectivement, on a d'autres investissements hein, de prévus. La vidéosurveillance, alors ça, au-delà d'être prévu, c'est même lancé, hein, puisque la première tranche est partie et sur 2024, on doit faire la deuxième tranche. On a promis aussi un tennis et un padel. Donc là, vous savez qu'en plus, on a des soucis avec notre tennis couvert qu'on doit démolir. 35 000 euros, hein, si je ne me trompe pas. 45 000 à minima. Bon, bah, c'est bien, ça augmente à chaque fois. Je vais arrêter de poser des questions. Chaque fois, je prends 10 ou 15 000. Donc, l'étude thermique aussi d'école Georges Sand, puisqu'on s'était engagé aussi à faire une très belle école au centre-bourg, mais à pas négliger l'école Georges Sand qui a un gros problème de chauffage et d'aération et de ventilation l'été. Hein. Donc là, il faut qu'on essaye de lancer une étude thermique pour voir quel type de travaux et à quelle hauteur pourrait résoudre de façon satisfaisante ces problèmes-là. Et puis l'aménagement de la salle de la Bargette sur laquelle, je vous ai dit, on essaye peut-être, mais alors là, on est un peu tenu par le timing, de pouvoir raccrocher le troisième plan de relance de Saint-Étienne Métropole.
Donc, pour la Bargette, on a lancé le marché, c'est-à-dire que il faut absolument... Le plan de relance devait s'arrêter au 31 décembre 2023. Il a été prorogé au 30 juin 2024 avec des contraintes, c'est-à-dire que ordre de service signé et travaux commencés. Alors, vous savez très bien que compte tenu des logiques auxquelles on est confronté pour les permis de construire ou de démolir, les marchés, etc., ça va être très, très dur. Donc, on s'est dit, on va tenter le coup de faire un dossier. Donc, ça y est, on a choisi un architecte. On les a rencontrés cet après-midi. Voilà, on leur a mis la pression pour qu'ils respectent le mieux possible ce calendrier qui est très, très, très contraint. Et on a mis ce dossier en se disant, ça c'est dommage qu'on perde une opportunité, sachant que le plan de relance aujourd'hui, qui a été évalué à 53 millions en sortie de Covid, alors je ne suis pas tout à fait d'accord quand Michel dit, ils payeront la moitié de ce qui reste, non. C'est-à-dire que quand on a fait la demande, qu'on a chiffré le reste à charge, ils en prennent la moitié. Si ce reste à charge, soit parce qu'on n'a pas de subvention, soit parce qu'on a un surcoût et supérieur à ce qu'on a indiqué, on n'aura que le montant qu'on leur a indiqué. Donc, tout ce qui est en plus, c'est pour notre pomme. Donc, ce plan de relance est à échéance du mois de juin 2024. Il a été rappelé que toutes les communes pouvaient en bénéficier donc à hauteur de 3 dossiers par commune dans la limite de 3 millions. Et aujourd'hui, les estimations qui sont faites, en termes de budget, j'entends, hein, pas forcément de paiement, font que l'enveloppe dédiée passerait de 53 à 70 millions pour satisfaire l'ensemble des demandes. Alors évidemment, Métropole ne dépensera pas 70 millions. Parce que quand on nous dit qu'on va leur demander 1,8 million, c'est sûr que si on a des subventions qui arrivent, le reste à charge sera moindre. Donc en fait, il n'y aura peut-être que pour 60 ou 62 millions de dépenses réelles. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ou on n'y va pas parce que de toute façon, ça ne passera pas budgétairement, ou on tente le coup. Comme dit Jacques, ben, c'est la moitié qui est prise en charge, l'autre moitié, c'est pour nous. Donc il faut la financer.
Voilà. Et bien sûr, j'ai ajouté que les projets pourront être lancés qu'en fonction des disponibilités financières, soumises bien sûr à nos subventions reçues. Et bien entendu, tout ça va être financé aussi par une partie par l'emprunt, mais surtout par le produit de nos ventes foncières. Ça, c'est incontournable. On ne pourrait pas prévoir un budget comme ça si on n'avait pas des produits de ventes financières, et foncières qui sont prévus. Et bien entendu, il y a aussi tous les travaux habituels d'acquisition de matériel et d'entretien des bâtiments qui doivent aussi continuer. Par exemple, sur les services techniques, il y a 3 véhicules qui devraient être changés. Ben, on changera peut-être pas les 3, on en changera peut-être qu'un ou deux. Mais voilà, on essaye toujours de contraindre un peu nos services et je les remercie encore et comme toutes les années de bien vouloir, de bien se plier au jeu malheureusement et d'être compréhensif quand on leur dit ben, qu'on peut pas aller au-delà de ce qu'on ne peut pas faire. Donc voilà les dépenses d'équipement. Donc vous voyez qu'effectivement sur l'année 2023, ben on a, comme on dit, fait sauter un petit peu l'audimat, hein, puisqu'on est passé de 550 000 euros de travaux d'équipement. Hein, là, c'est que des travaux d'équipement. Hein, il n'y a pas les charges financières, il n'y a pas tout ce qui est immobilisation et tout ça. Mais les travaux d'équipement, on est passé à 2 116 278 et on sera encore en 2024 certainement bien au-dessus. Voilà. Alors l'évolution de la dette, ben, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure, on a quand même bien diminué l'endettement de la commune. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait pris comme engagement électoral de baisser la dette de 780 euros par habitant. Quand on est arrivé en 2020, elle était à 1400 euros par habitant. Donc vous voyez, notre but c'était de diviser par 2. Et à l'heure actuelle, en 2023, on est à 841 euros par habitant. Donc on a quand même beaucoup diminué. On est beaucoup plus dans la norme. La norme, c'est effectivement 750, 780 euros par habitant. Et on a beaucoup diminué. Frédéric, je pense qu'il y a un souci. Ça, il n'y avait plus de sous. On a tout coupé. Donc ça, c'est quand même un point positif, hein, parce que il y a toujours une question de confiance aussi. Hein. Je vous rappelais tout à l'heure l'année où on était plus suivi par les banques. Quand on présente des chiffres comme ça, on est quand même beaucoup plus crédible et beaucoup plus soutenu que lorsqu'on arrive avec un taux d'endettement à 1400 euros par habitant, parce qu'il y a un moment où effectivement, c'est plus tenable.
Pour la petite histoire, donc effectivement, en septembre 2019, notre banque, puisque historique, le Crédit Agricole nous a lâchés. Donc on a immédiatement arrêté tous les investissements. Depuis, on a diversifié, puisqu'on travaille avec d'autres banques, voire parfois avec 2 banques. Et il faut dire aussi qu'ils avaient eu comme clignotant rouge le rapport de la Chambre régionale des comptes sur 2018, qui était particulièrement alarmant. Alors sur notre gestion, etc., c'est une chose, mais sur ces indicateurs. Puisque je crois qu'il y a un seuil de désendettement qui doit être de 12 ans.
Voilà, mais on voit dans la slide d'après. Ah bon. Voilà.
Et donc, ils avaient tiré la signal d'alarme. Et bien sûr, les banques pensaient qu'elles sont très attentives à ce genre de choses. Et immédiatement, ils nous ont coupé les crédits.
Voilà. Et ensuite, donc, la capacité des endettements, c'est le nombre d'années, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on mettrait à rembourser la totalité de la dette si on ne faisait que ça. En fait, on prend les 5 119 000 dont je vous ai parlé tout à l'heure d'encours de la dette. C'est-à-dire ce qu'on a à rembourser si on ne reprenait pas d'emprunt. En fin 2023, c'est ce qu'on avait à rembourser et on le divise par le capital qu'on paye. Et là, on se retrouve avec un nombre d'années. Et maintenant, on est à une année 64. Donc, vous voyez, c'est pas non plus. Pour info, en 2017, on était à 22,7 années pour pouvoir rembourser. Ça veut dire qu'on était très, très au-delà, puisque le seuil de vigilance est à 12 ans. À partir d'en dessous de 12 ans, tout va bien. Au-dessus, si c'est 12, 13, ça va. Quand on monte à 22, 27, 22, c'est pour ça aussi, effectivement, que sur l'année 2018, on a eu un rapport de la Cour des comptes qui était un petit peu catastrophique parce que on avait plusieurs indicateurs comme ça qui étaient plus qu'au rouge. Voilà. Donc, pas grand changement par rapport à l'année dernière, si ce n'est le montant des investissements. Situation financière un peu assainie, mais il faut être prudent, il faut continuer ce genre de choses. Peut-être effectivement se poser la question de savoir s'il faut continuer notre augmentation régulière du taux de la taxe foncière, parce que il faut pas se faire d'illusions sur nos augmentations de charges de fonctionnement. 2024 sera impacté de la même manière que 2023. Hein. Donc il faut pas dire bah on est bien, on reste comme on est. Si à côté de ça les charges augmentent, hein. C'est toujours le même principe. Il y a un moment d'équilibre et qu'il faut essayer de maintenir. Voilà. Mais ça on en reparlera quand on montrera effectivement le budget général.
Par exemple, le fait d'éteindre la nuit l'éclairage public. Alors on aura prochainement le coût de l'économie. En fait, c'est une non-dépense. C'est-à-dire que si on n'avait rien fait, on aurait encore eu plus de dépenses énergétiques. Là, c'est une non-dépense. Donc, on dit, tout compte fait, nos dépenses de fonctionnement n'ont pas trop augmenté, mais elles n'ont pas trop augmenté parce qu'il y a certaines dépenses qu'on a pu maîtriser. Donc, ça sera intéressant. On le fera à l'occasion d'une prochaine réunion. Pas en euros, parce que ça ne voudrait rien dire, mais en kilowatts, voir combien on a pu économiser par cette action-là. Et là, ça a été, à mon avis, quand même un élément très important. Il y a aussi le fait qu'on contrôle les températures dans nos établissements, le fait qu'on a encore un contrat à tarif bloqué avec le gaz de Bordeaux jusqu'au 30 juin 2024. Ça veut dire qu'on n'a pas pris, nous, collectivités, les augmentations successives du gaz comme l'ont connu d'autres communes. On a des tarifs négociés avec nos compagnies d'assurance, alors qu'aujourd'hui, il y a des communes qui ne peuvent plus s'assurer. Parce que compte tenu d'un ensemble de sinistres, les assureurs ne veulent plus assurer les communes. Donc tous ces paramètres-là, qui sont pour nous des paramètres de gestion courante, sont quand même des éléments très importants dans le côté, je dirais, maîtrisé de nos dépenses.
Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, des interrogations. Voilà ce qu'on est en capacité de vous présenter à ce jour. Et bien entendu, pour la commission finances et la prochaine le conseil qui entérinera le budget 2024 sera bien entendu, merci, sera beaucoup plus détaillé sur l'année en cours.
Est-ce que vous avez des questions? Donc Michel vous a dit qu'on se tenait à votre disposition. Hubert Blanchard.
Blanchard. Donc moi, je me pose une question. Je n'étais pas là avant le mandat. Quand on a pris le mandat, Michel nous a dit qu'on était endetté de plus de 1400 euros par habitant. On sait d'où vient cet endettement?
Un recours beaucoup trop important à l'emprunt. C'est-à-dire que après c'est comment dire alors je fais rire tout le monde parce que je compare toujours le budget d'une collectivité à un budget ménage. Dans les années précédentes, on a trop dépensé par rapport à nos capacités d'économie. C'est-à-dire qu'on avait un excédent de fonctionnement qui n'était pas suffisant. On a même eu des années où on était en capacité d'autofinancement net négative, c'est-à-dire qu'on n'avait pas tout à fait... Alors, il faut faire attention sur la capacité d'autofinancement net parce que on était négatif sur l'année en cours. C'est-à-dire que cette année, si on fait le delta entre nos dépenses et nos recettes, on a suffisamment, sans compter ce qu'on a économisé les autres années. On a suffisamment pour rembourser notre capital d'emprunt. Pendant plusieurs années, sur la commune de Saint-Prié, si on faisait le ratio de l'année N, sans compter ce qu'on avait économisé les autres années, on n'était pas en notre capacité d'autofinancement net était négative. C'est-à-dire qu'on n'aurait eu que ça et on n'aurait pas eu nos économies antérieures, on ne pouvait pas rembourser le capital de l'emprunt. Voilà. Donc ça, ça aussi, c'est un, et la Cour des comptes l'avait relevé, c'est un indicateur qui n'est pas bon. Donc on a dépensé beaucoup. Parce qu'on a fait des gros investissements. Hein. Le plus gros investissement a été bien entendu le Clos Bayard, hein, la rénovation du Clos Bayard, qui nous a coûté aussi plus que ce qu'on avait espéré au départ. Mais ça, c'est toujours le problème des rénovations, c'est qu'on a toujours des mauvaises surprises sur de la rénovation, plus que sur du neuf. On n'a pas voulu, et ça, c'est une décision collégiale, mais ceux qui étaient là peuvent en témoigner. Je me suis battu bec et ongles pour essayer de faire augmenter les impôts. Parce que oui, on avait fait la promesse de ne pas le faire lors du précédent mandat, mais il y a un moment où on doit être, comment dire, confronté à la réalité. Et la réalité aurait voulu qu'on augmente les impôts. Ce qui fait que la non-augmentation des impôts nous a entraîné, je dis toujours, le double effet qui se coule, c'est-à-dire que ça nous a entraîné dans la mesure où notre taux d'imposition n'était pas suffisant par rapport à notre capacité. C'est-à-dire que l'État a dit, Saint-Priest-en-Jarret, c'est une commune, alors on va faire râler parce que c'est toujours ce qu'on dit, ce qui n'est pas la réalité, mais une commune riche. C'est pas une commune riche, c'est une commune où on a une population qui a un potentiel fiscal fort. C'est vrai qu'on est quand même dans des classes socio-professionnelles plus par rapport à beaucoup d'autres communes. Mais comme on ne demandait pas à notre population l'effort nécessaire, l'État s'est dit, ben moi je ne vais pas payer. Puisque la commune ne veut pas faire payer sa population qui pourrait payer, et ben du coup on a. Alors, il y avait une baisse prévue hein, de la dotation. On n'a pas eu complètement la suppression à cause de nous. Mais on a quand même eu la suppression totale parce qu'on n'a pas été en capacité d'augmenter notre... Donc ça, la capacité d'autofinancement net qui n'était pas suffisante, nos recettes fiscales qui n'étaient pas suffisantes, des dépenses qui étaient, elles, par contre, importantes, il n'y a qu'une manière de les financer, c'est de recourir à l'emprunt. Et c'est ce qu'on a fait pendant quelques années. Et du coup, le taux d'emprunt était beaucoup plus important.
Chaque année, on a recours à l'emprunt. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce phénomène, alors, ce n'est pas l'État qui s'est dit, tiens, on va couper les vivres à Saint-Priest-en-Jarret. C'est que c'est le grand ordinateur de Bercy qui croise une réalité, qui nous classe dans des séquences en fonction de la population, en fonction de la typologie socio-économique, etc. Et ce qu'il faut simplement savoir, c'est que, un, sur la dernière mandature, entre 2014 et 2019, on a perdu, on peut le chiffrer, plus de 4 millions d'euros de dotation globale de fonctionnement. Alors, comme nous avait dit le préfet quand on est allé voir, c'est pas grave parce que ce que vous perdez, d'autres l'ont, puisque c'est une enveloppe à montant constant. Oui, mais c'est vrai, d'un point de vue du préfet. Et tant mieux pour celles qui en ont bénéficié, c'est des communes qui en avaient besoin. Donc, nous, on n'a pas augmenté parce que si on avait augmenté en plus, on n'aurait pas perdu la dotation, mais on aurait eu des recettes fiscales supérieures. Donc, ces 4 millions-là, et on l'a toujours dit, en 2020, quand on arrive, nous font cruellement défaut. Voilà, c'est aussi une réalité. Voilà, et quand on me dit Saint-Priest est une commune riche, généralement, je réagis tout de suite. Je dis simplement c'est une commune où il y a quelques riches, ce qui n'est pas la même chose. Voilà, on a eu une double peine, et ben, aujourd'hui, on la gère, et on la gère en s'en sortant pas trop mal par rapport au point de départ. Et ça, il faudra s'en rappeler.
D'autres questions ?
On va considérer que le débat d'orientation budgétaire est terminé et on va pouvoir passer à l'examen de l'ordre du jour du Conseil. Donc, premier point, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Avez-vous des remarques à faire par rapport à ce procès-verbal ? Donc, on va le soumettre à votre approbation. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, le procès-verbal est donc validé à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point suivant, c'est l'état des décisions du maire. Donc, comme on a eu très peu de temps entre les deux conseils, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez remarqué que pour l'essentiel, elle concerne la petite enfance. C'est normal, on est en début d'année, donc il y a tous les renouvellements de contrats pour la petite enfance. J'ai demandé à Michel, qui supervise ce secteur, d'avoir une approche pragmatique. Donc ces conventions sont signées, puisqu'on vous les présente. Donc elles sont engagées pour l'année 2024. Michel a déjà rencontré les responsables de la petite enfance, que ce soit crèche, jardin d'enfants ou relais, pour avoir une approche pragmatique de ces dépenses. Certaines sont indispensables, donc on les honorera. Comment ? Obligatoire. D'autres, ça peut se discuter. Donc on leur a demandé, à partir de maintenant, d'examiner point par point toutes ces dépenses. C'est un plus hein, pour les enfants qu'on accueille, c'est certain. Mais à un moment donné, il faut rendre des arbitrages par rapport à ces dépenses. Voilà. Au même titre, d'ailleurs, qu'on a la même démarche par rapport aux investissements. Et on a des collaboratrices et des collaborateurs qui sont tout à fait en capacité d'entendre ce qu'on leur dit. Donc voilà les décisions du maire, il n'y en a pas beaucoup. Elles vous sont donc soumises comme d'habitude. Le point 2, là aussi c'est de la reformulation. Donc par délibération 22-06-02 du 7 juin 2022, le conseil municipal a désaffecté, déclassé du domaine public communal une partie de la parcelle cadastrée AB 158, soit environ 3 939 m² sur une surface totale de 7 900 m² environ, et a décidé de la mettre en vente. Par délibération 22-11-04 du 8 novembre 2022, le conseil municipal a approuvé cette cession au profit de la SAS Lotisseur de la Loire, moyennant le prix de 265 000 euros. Il s'agit du terrain du Charpenais à côté du City-Stade. Par délibération 23-11-24 du 7 novembre 2023, le conseil municipal a approuvé la résiliation du compromis de vente signé avec la SAS Lotisseur de la Loire, cette dernière n'arrivant pas à vendre les maisons en bande prévues dans son projet. Un nouveau promoteur local, la SARL Oliam Immobilier, a souhaité se porter acquéreur de ce terrain au prix de 265 000 euros pour construire deux petits immeubles en R+1 de 4 logements chacun. Pour rappel, conformément à l'avis des domaines 2022 42 275 69 580, la valeur vénale de ce bien est estimée à 195 000 euros. Une nouvelle déclaration préalable de division de parcelle de la parcelle cadastrée AB 158 en un lot de 1540 m² environ a fait l'objet d'une décision de non-opposition en date du 23 janvier 2024. Il est donc demandé au conseil municipal de valider cette action, à savoir d'approuver la cession à titre onéreux d'une parcelle de terrain d'une surface de 1543 m² à détacher d'une parcelle de plus grande contenance cadastrée section AB numéro 158 d'une superficie cadastrale de 7922 m² au profit de la SARL Oliam Immobilier ou toute autre entité juridique agissant en son nom, moyennant le prix de 265 000 euros et telle que la parcelle vendue figure sur le plan de division susvisé et sur le plan du document d'arpentage joint. Deux motorisés à signer toutes les pièces et tous les documents nécessaires. Les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur. Donc vous avez vu les documents, on en a déjà parlé. On change d'acquéreur potentiel et de projet. Le projet consistant à deux petits immeubles d'un étage, on l'a validé tous ensemble. On a regardé également les problématiques de stationnement et je pense qu'on pourra y répondre. On voulait créer quelques places de stationnement en plus sur une partie qui appartient au toit forésien. Non, pas au toit forésien. À Bâtir et Loger, je crois, qui nous ont dit il n'y a pas de problème, on vous rétrocédera les petites bandes de terre pour faire quelques parkings sans aucun problème. Donc non seulement on ne perd pas en capacité de stationnement, puisqu'il y aura des stationnements dédiés au projet qui seront privatifs, mais en plus, on va créer du stationnement public en plus. Et pour répondre à certaines inquiétudes de riverains. Des questions par rapport à cette décision ? Donc, je vais vous demander de la voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, nous validons cette décision à l'unanimité. Et je vais passer maintenant la parole à Christine pour le projet de réaménagement de la médiathèque André Chaise.
Bonsoir. Le 11 décembre 2023, nous avons autorisé M. le maire à signer les documents se rapportant à la demande de subvention auprès du conseil départemental pour le réaménagement de la médiathèque André Chaise. Ce soir, nous demandons d'autoriser M. le maire à solliciter auprès de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes une subvention au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques de la dotation générale de décentralisation. L'État soutient les bibliothèques publiques grâce à la dotation générale de décentralisation en faveur des bibliothèques. Le concours particulier relatif aux bibliothèques de la dotation générale de la décentralisation est le principal dispositif de soutien de l'État à l'investissement et au fonctionnement non pérenne des bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques départementales. Sont uniquement concernées les bibliothèques publiques, c'est-à-dire les bibliothèques offrant un service de lecture publique à l'ensemble de la population. Il permet d'accompagner les projets des collectivités territoriales en faveur de l'accès aux livres et à la lecture, de l'apprentissage du français et des langues, de la citoyenneté, de la lutte contre l'illettrisme et l'illectronisme. En 2022, la commune souhaitant réaménager la médiathèque André-Chaise, une étude de programmation et de définition d'espace sous la forme d'ateliers participatifs a été confiée aux agences Julien de Souza et Gulliver Design. Les objectifs de la mission étaient les suivants. Par le biais de différents outils de co-conception, imaginer l'évolution de la médiathèque et définir les besoins d'intervention sur l'espace d'accueil. Faire apparaître une nouvelle organisation spatiale possible en accord avec de nouveaux usages associés aux enjeux tirés du temps préalable d'observation. S'assurer que les nouveaux besoins projetés s'articulent dans le futur plan d'aménagement. Qualifier les besoins par secteur et espace, éprouver spatialement l'organisation projetée sous la forme d'une pré-maquette. Monsieur le maire rappelle également les enjeux sociaux, culturels et économiques du développement de la lecture publique sur le territoire et toute l'importance des aménagements prévus pour offrir aux usagers de la médiathèque un lieu correspondant à leurs besoins et à leurs attentes. Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant. En dépenses, études programmatiques, 12 865 euros. Nouveaux équipements mobiliers, 44 210 euros. Valorisation et adaptation du mobilier existant, achat du matériel hors main d'œuvre. C'est la petite différence qu'il y avait justement avec la demande lors du conseil départemental, parce que la DRAC nous a demandé de ne pas mettre la main d'œuvre puisque les travaux seront faits en régie. Matériel pour l'espace jeu, 1044 euros. Notice accessibilité sécurité, 1000 euros. Travaux courants forts et faibles, 1000 euros. Ce qui nous fait un total de 63 119 euros hors taxes. Les recettes, donc nous espérons, avec l'état DRAC, 31 559 euros, c'est-à-dire 50% du montant. Le département, 12 000 euros, ce qui correspond à 19%. Et la commune de Saint-Priest reste à sa charge 31%, c'est-à-dire 19 560 euros. La commune étant maître d'ouvrage de cette opération, il est demandé au conseil municipal de prendre acte de l'engagement de la commune dans le projet défini ci-dessus, d'approuver le plan de financement tel que décrit précédemment, d'autoriser monsieur le maire à solliciter auprès de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, une subvention au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques de la dotation générale de décentralisation et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents se rapportant à la demande de subvention.
Donc vous avez compris que c'est une demande d'autorisation de demander la subvention. Quand on a rencontré les représentants du département et de la DRAC, donc la direction régionale des affaires culturelles, ils nous ont félicités sur ce projet, tant sur sa conception que sur la méthode consistant à avoir un recours à un conseil. Donc vraiment, ils ont été très, très, je dirais, favorables à ce projet en disant que vous avez fait un travail remarquable. C'est rare qu'on voit des médiathèques s'inscrire dans cette démarche en termes de projet et d'accompagnement. Donc voilà, donc ils nous ont garanti, alors c'est pareil, hein, on verra ce qu'ils nous notifieront, mais de nous accorder les subventions maximales. Mais ils étaient vraiment, surtout la DRAC, particulièrement satisfaits de la démarche. Et pour qu'ils se déplacent à deux, c'est quand même que le projet les intéressait. Avez-vous des questions par rapport à ce projet? Alors, il était déjà, je dirais, prévu sur les investissements 2023, dans nos projets. Hein, mais c'est vrai qu'on n'avait pas été au bout de l'élaboration de son financement et des recherches de subventions. Donc le projet, bon, vous avez compris qu'on va complètement changer la disposition de la médiathèque. Ce sera beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus convivial, avec une partie qui sera modulable. Tu veux dire quelques mots?
Oui, c'est ce que je vous avais montré la dernière fois. Il y a la partie qui est actuellement l'espace pour enfants, qui sera modulable, cet espace-là, où on pourra faire des conférences, des lieux de rencontre avec les auteurs. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une rencontre, eh bien, il faut tout déplacer. C'est très compliqué. Elles doivent déplacer les bacs de CD. Mais c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres. Il va falloir à nouveau désherber pour faire un peu plus de place.
Des questions par rapport à ce projet qu'on vous avait déjà présenté ? Donc je vais le mettre aux voix. Qui est contre ? Il s'agit d'aller chercher une subvention. Donc. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, à l'unanimité, nous validons cette démarche. Et je constate que nous en avons fini avec le conseil municipal. Il fallait qu'on tienne. Alors, en fait, on est un petit peu très proche du précédent, parce que là, le précédent, il y avait des contraintes administratives. Je vous remercie. Et pour les élus, je leur demande de rester un tout petit moment pour une communication. Merci à vous.